Et toi, tu as déjà composé pour enjoliver les textes d'un ou d'une autre?
Alors, pas en composition, mais là, moi, je viens d'intégrer un projet qui s'appelle Laine Parotte, un projet de pop nantaise. C'est le projet de Romain Lallemand. Et voilà, il a fait appel à moi pour jouer de la guitare électrique, un petit peu de clavier. Donc là, je me retrouve interprète, parce que les parties, on les a réadaptées pour le live. Mais, et en fait, c'est une super expérience. C'est la première fois que moi, je me retrouve... voilà, on dit backing band, c'est un peu la formule type anglophone. Je sais pas, il y a quelque chose de très plaisant, comme tu dis. Pourquoi se mettre au service? Mais parce que ça fait hyper plaisir en fait aussi d'être là pour accompagner, donner de l'élan en faisant de son mieux, quoi.
T'avais dit dans une interview que si vous voulez faire de la musique dans laquelle on pouvait se lâcher, vous pouvez danser un peu n'importe comment. Et en même temps, dans le dernier single que tu as sorti en 2022, ça me rend un petit peu, How Long, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélancolie dedans.
Oui.
Et c'est très posé plutôt.
Oui, oui, oui. Ouais.
How Long, c'est le morceau du bateau qui cherche l'amour absolu.
Non, ça c'est On the Run.
Ah, pardon.
Oui, t'as bien écouté ce que je raconte entre les morceaux. Ouais. How Long, en fait, c'est une reprise même d'un groupe qui s'appelle The Deans. Ils sont irlandais, je les avais rencontrés il y a longtemps. Et c'est un morceau qui parle d'amour. Je crois que ce qui m'a plu, c'était vraiment le sujet. Et how long, c'est combien de temps avant qu'on se rende compte que tout est en train de se casser la figure, quoi.
Mais tout, ce qui nous entoure,
ou une relation. Non, au sein de la relation. Donc c'est vrai.
On ne se rend jamais compte que ça se casse la figure.
Bah,
si, tu peux le sentir.
C'est ça qui est beau.
Vous le sentez pas.
Les hommes, tout est gentil, toi.
C'est ça qui est beau dans ce morceau, c'est que ça parle vraiment de ce moment où tout bascule et qu'en fait c'est un peu ça, j'ouvre les yeux pour voir à quel moment, quoi.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
On va devoir en arrêter là parce qu'il y a d'autres artistes qui arrivent.
On est nombreux.
Mais c'était super sympa.
Merci.
Et un petit mot d'ailleurs sur les recos, parce que du coup, tu es allée voir Porridge Radio.
Dont
hier.
Je porte le t-shirt actuellement. J'ai été complètement enchantée et complètement emmenée par ce concert hyper généreux et vraiment le côté groupe fusion. Voilà, ça m'a redonné envie de jouer en groupe.
Pour le coup, ça m'a moins choqué hier sur Porridge Radio, ce côté où d'autres se mettent au service parce qu'il y a beaucoup d'interaction entre eux par rapport à certains groupes. Je vois, c'est bizarre des fois. Il y a un côté un peu militaire du leader et
non, là on sent vraiment qu'ils s'écoutent et super complémentarité.
Vive
Porridge Radio, carrément.
Et ben merci beaucoup.
Merci à vous tous.
On peut s'écouter un petit une petite musique. Bah tiens, How Long, non? On peut.
C'est parti.
left me here bleeding and shivering and close.
Ça a marché ou ça marche
pas? 1, 2, 1, 2. Ah, vas-y. Il est 17h06, vous êtes toujours à l'antenne de Radio Rocco. À l'instant, c'était le morceau All Long de Anna Monteverdi que vous avez peut-être pu voir à la chapelle, dernier jour du festival, et tandis que Artie et Paul de Psychotic Monks nous ont rejoints sur le plateau et l'interview sera menée par Leslie et Noah. C'est à vous.
Merci déjà d'être là. Moi, je vais vous poser une première question un peu classique, mais qu'est-ce qui vous inspire, en fait, parce que vous avez un mélange de plein de genres, que ce soit le post-punk, la noise ou l'indus. Ou est-ce que vous avez des influences spécifiques qui nourrissent cette fusion-là?
Salut. Bah, du coup, merci pour l'invitation. Pour répondre à ta question, on a plein de, à mon avis, d'inspirations différentes au sein des différentes personnes du groupe. Du coup, on est un peu à une phase maintenant et depuis la composition du dernier album où on s'est beaucoup plus laissé chacun et chacune amener nos références et nos inspirations un peu plus individuelles et personnelles. Comme tu disais, il y en a un ou une qui aime la noise, l'autre qui aime un peu la techno, l'autre qui aime le post-punk, et on va essayer de faire un mélange de tout ça en jam, en composant, en improvisant, plutôt que de se réunir autour d'une esthétique commune et un peu tout le monde se réunit autour de ça. Par exemple, au début du groupe, on était assez alignés sur le rock psyché ou le stoner ou ce genre de trucs-là. On s'y trouvait tous ensemble et du coup, on s'est dit « Ok, on fait ça ensemble ». Maintenant, avec un peu plus de confiance, ça fait un cocktail un peu plus étrange, mais au moins, il y a toutes les inspirations qui peuvent s'exprimer.
Est-ce que vous diriez qu'il faut abolir le genre musical?
Tous les genres devraient être abolis, a priori.
Votre musique et vos performances, elles ont un caractère plutôt brut et subversif. Comment ces aspects, justement, est-ce qu'ils se lient à une volonté de résistance, entre guillemets, ou...
Un peu brut et subversif, je pense que quand tu parles de résistance, moi, ça me fait juste dire que la musique qu'on fait, elle est très intime et elle a quelque chose de très cathartique aussi d'être sur scène, de pouvoir un peu... C'est un endroit où on peut ouvrir les vannes, crier, danser, chanter, faire un peu tout comme il nous semble bon et que ça fait du bien de le faire. Et je pense qu'on a un peu envie de participer à une forme de sensation de résistance un peu aujourd'hui, ouais, carrément. Donc je pense que ça doit trouver une place, s'exprimer un petit peu dans la musique ou dans l'émotion qui nous pousse à monter sur scène et à faire cette musique qui est assez... énergique, énervé, un peu intense. Enfin, il y a beaucoup de colère légitime. Moi, je pense qu'il est sain d'extérioriser et de se retrouver aussi en communauté, à se dire, mais toi aussi, ça te fout en rogne, ça. Toi aussi, ça te fout en colère. On peut mettre les sujets sur la table, etc. En discuter ensemble, mais... Donc, ouais.
Et du coup, justement, la liberté de création, elle est plutôt primordiale. Et comment vous parvenez, justement, à maintenir ce truc-là dans l'industrie actuelle?
À fond. Poser des pierres un petit peu, quoi, petit à petit, avec le groupe et avec les sujets, que ce soit la situation au Moyen-Orient, que ce soit la lutte décoloniale, féministe, antiraciste, antifasciste, tout ça se retrouve dans la liberté d'avoir un micro, de pouvoir s'exprimer et musicalement aussi d'en faire quelque chose de singulier, quoi, qui est le nôtre, je pense, ouais.
Vous, vous expliquiez que vous vouliez éviter de les chansons slogans. Comment ça se retranscrit au niveau de l'écriture?
Je pense qu'on se pose pas trop de questions en fait. On se pose pas trop cette question. Après ça dépend des points de vue, mais moi personnellement mon point de vue c'est que de toute façon un acte créatif sera politique forcément, qu'on le conscientise ou non. Et donc voilà, en fait je pense que on fabrique des objets avec des représentations, des narrations, etc. Et en fait elles portent forcément les questionnements qui nous traversent et les luttes qui nous traversent.
Justement, vous parliez tout à l'heure, ce côté intersectionnel qui est super important pour vous. Et comment vous arrivez à trouver un équilibre justement entre toute cette vision-là que vous écrivez, que vous voulez retranscrire, tout en parlant de, il me semble, de safe place par rapport au public, etc.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. C'est-à-dire que comment est-ce que on essaye de viser quelque chose de safe et d'intersectionnel dans les espaces de musique qu'on a et qu'on propose. Je pense que, je sais pas, je me dis qu'on se retrouve beaucoup à différents endroits dans nos luttes respectives à se retrouver au même concert, à aimer les mêmes choses, parce qu'on a l'impression que les artistes parlent de féminisme, parlent de colonialisme, parlent de patriarcat, de capitalisme, d'écologie, et en fait c'est plutôt quelque chose d'inspirant de se dire en mode ok, maintenant que ce soit un peu intergénérationnel aussi, tout le monde a sa place dans une lutte un peu intersectionnelle justement, et nous on n'est pas des expertes et des experts, mais par contre on a des micros comme ça, on peut en parler et lever l'ambiguïté, en tout cas nous vis-à-vis d'être sur scène et de participer à une représentation de on est quatre personnes sur scène et lever, je sais pas comment dire, essayer de créer un peu des communautés autour de nos luttes communes, quoi. Je pense que ça fait un petit peu aussi des fois du tri avec les personnes qui viennent nous voir et qui nous font des commentaires de merde, qui nous font des remarques pourries, ou bien juste qui foutent une ambiance de merde dans le public. Franchement, ça nous arrive de temps en temps, et d'être un petit peu radical et de viser l'intersectionnel. En plus, c'est pas tant radical que ça de viser quelque chose d'un peu intersectionnel et d'un peu de gauche. Mais la safe place, après, moi, je dirais que c'est un travail en commun avec les équipes d'accueil, avec toutes les personnes qui participent au festival, à la salle de concert, et que tout le monde a sa responsabilité. Nous, sur scène aussi, on essaie d'être vigilante et vigilant à s'il se passe quelque chose et qu'on joue et que la musique est forte, qu'on dépasse les 100 dB, ça masque un petit peu tout ce qui peut se passer dans le public. Si on s'arrête de jouer et qu'on prend un moment de respirer, on entend les gens qui parlent, les gens qui réagissent, etc. Et donc, du coup, on essaye de pas se dire en mode ok, ça casse le set, ça fait chier, ça nous empêche de nous remettre dedans, et plutôt en mode on fait un moment de respiration, on vire la personne qui fait chier si c'est le cas, ou alors au contraire tout le monde va bien. Et je sais que les personnes qui nous ont fait des retours en nous disant franchement ça fait plaisir de vous voir arrêter, poser un moment, demander est-ce que tout va bien, tout le monde est prêt à repartir, et si oui, ok, on repart, et les gens se sentent considérés dans un moment de teuf ou de soirée où ça peut être vite t'es sur scène, tu fais ton truc et t'as un peu tes œillères, tu vois pas trop ce qui se passe, et pour nous c'est comme ça qu'on participerait à la safe place de la soirée.
En parlant de travailler en commun, j'ai vu que vous aviez travaillé avec Jenny Bess.
Oui.
Des CVGs, et moi j'ai entendu parler d'elle en écoutant le morceau Fokkers, qui est un morceau de quasi 10 minutes, une espèce d'escalade chaotique avec un message simple: don't let the fuckers get you down, ne laissez pas les connards vous tirer vers le bas. Donc finalement, aussi bien sur le fond que sur la forme, vous étiez fait pour vous rencontrer. Ça s'est passé comment, cette collaboration?
Eh bien pour tout dire, pas super bien.
Ah merde.
C'est pas forcément elle. C'est plus qu'on a été invité en fait à son émission qui était diffusée par Arte Concert. Et c'était quelques semaines après le 7 octobre l'année dernière. Donc nous, comme à chaque concert, en fait, on brandissait un message pour demander le cessez-le-feu à Gaza. Donc là, on l'a fait et en fait, ça a généré un énorme souci pour la production. Et en fait, pendant des mois, ça a été une aventure cauchemardesque où on a essayé de clairement censurer le message. Donc du coup, nous, on a essayé de lutter comme on pouvait pour pas que ça soit censuré, mais on n'a pas trop eu notre mot à dire. Ça a fini par un communiqué qu'on a fait sur les réseaux. Mais voilà, après, en soi, c'est pas les individus, en fait, c'est plus... Il y a un espèce de système dangereux de censure qui est quand même globalement mis en place dans les médias mainstream quoi, en France. Et c'était grave, en fait, de constater ça. Voilà.
Effectivement, oui.
Et justement, c'est pas forcément un rituel, mais est-ce que vous avez un rituel justement avant de monter sur scène pour vous mettre un peu dans le mood, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais...
Tu veux dire nous, avant de monter sur scène, ouais. Entre nous quatre Non, pas particulièrement. Je pense que... Il y a eu plusieurs phases du groupe où, ouais, si, avant, c'était... des câlins, des petits mots pour se remonter le moral, ou au contraire des trucs assez obscurs ou plutôt pour tout donner quoi, des trucs de motivation. Maintenant j'ai plutôt l'impression qu'on est assez confiant et confiante, et que si tout le monde monte sur scène, c'est que tout le monde a envie d'y aller. Et maintenant le set, on l'a bien travaillé, les morceaux on les a sous la main, on a aussi des passages d'improvisation sur scène, donc ça c'est aussi des moments de gros kiff, de juste profiter et se connecter les uns les unes aux autres. Donc pas trop de rituels pour se mettre dans le mood. Je dirais juste on se check, on se fait un petit check en mode ça va, ok, prête, on y va, et puis let's go, ça part.
Est-ce que vous avez déjà songé à chanter en français?
On y a pensé. Après là pour l'instant, ce qui nous vient vraiment plus naturellement, c'est l'anglais, parce que 99% de ce qu'on écoute, c'est chanté en anglais. Après, c'est pas exclu, mais on le fera pas parce qu'on est un groupe français. On le fera si jamais à un moment on a envie de s'exprimer dans cette langue. Voilà. La porte n'est pas fermée, mais enfin voilà, c'est pas. Et puis après, on a tous des rapports différents à la langue, mais. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien chanter dans une langue qui n'est pas ma langue de base, parce que je trouve que ça permet de moins respecter le langage, donc ça permet de faire des choses intéressantes aussi, qu'on ne se permettrait pas de faire avec le français, je trouve.
Ça laisse plus de place à l'imaginaire.
Oui, voilà.
Et vos performances live, pardon, est-ce qu'elles sont beaucoup influencées par comment le public se prend aussi au jeu ou,
Complètement. De toute façon, le public fait autant le concert que nous, en fait, c'est vraiment une histoire de d'énergie collective, et nous, on l'a bien remarqué, en fait. Des fois, on peut faire exactement la même chose, et en fonction de l'accueil et du retour d'énergie des personnes, ça va pas être du tout le même concert, en fait. Donc c'est vraiment. C'est ça qui est beau, je trouve, avec le spectacle vivant, quoi. C'est que, en fait, il y a tellement de facteurs qui influencent ce qui va se passer, et je pense que tout le monde participe, en fait, les personnes qui accueillent, les personnes qui organisent, nous, le public, en fait, tout le monde participe à ce qui se passe.
T'as utilisé le terme cathartique tout à l'heure. Tu pourrais peut-être un peu l'expliquer par rapport à comment tu perçois.
Moi personnellement, c'est plus que cette société, en fait, elle est violente pour tout le monde, hein, je pense, notamment quand on est une femme ou qu'on est une femme trans, par exemple, et du coup on a peu d'espace, en fait, où essayer de se libérer de ses angoisses et essayer de s'empouvoirer, quoi, de construire des choses qui vont nous renvoyer des images positives et qui vont nous aider, en fait, à s'aimer, à aimer les autres, enfin voilà. Et pour moi, les espaces de scène, en fait, ils servent beaucoup à ça. et ils sont hyper importants parce que en fait j'ai l'impression que il y a pas, on nous propose pas ces espaces-là dans la société. En fait, on est obligé de les prendre nous parce que en fait, enfin la plupart des espaces qui nous sont proposés, c'est des espaces d'angoisse, de violence, de capitalisme. Enfin, c'est tout le monde prend cher en fait et on a très peu d'espace quoi pour ça.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Pour l'invitation.
On va vous laisser retourner à vos répétitions et on sera à coup sûr présent au concert pour voir ce que ça donne en live.
Trop bien, merci. Prenez soin de vous.
Bonne continuation. À tout à l'heure.
Et pour avoir un aperçu de ce live, on va écouter un de vos morceaux, le morceau Crash. Et c'est le retour du direct sur Radio Rocco, toujours en direct des Rocomotives au Minotaur de Vendôme. Vous venez d'écouter le morceau Crash des Psychotic Monks qui se produiront ce soir au Minotaur et vient de nous rejoindre avec Gablé. Ils sont tellement nombreux, nombreuses. Patrice, c'est à toi.
C'est à moi. Ben moi, ça fait une vingtaine d'années que je me régale avec les disques et les concerts de Gablé. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être là, de revenir encore à Vendôme pour les Rocco. Donc effectivement, on a un bonus. On n'a pas trois membres de Gablé, mais il y a deux nouveaux qui sont des guests de ce soir, je suppose.
C'est ça.
Mathieu.
Bonjour. On est avec Séverine et Bruno qui vont jouer avec nous pour l'occasion.
Ok. Ça sera. Est-ce qu'on m'entend encore? Ouais. Voilà, donc c'est juste un one shot, juste pour ce soir. C'est
Ouais.
Deux musiciens qui ont participé à l'enregistrement du dernier album.
Complètement. Ils sont venus enregistrer assez sympathiquement les flûtes et les bassons sur l'album. Et on s'est dit que, en fait, notre label est en Figure Libre, qui est un label.
Figure Libre Records, tiens.
Voilà. Et donc, eh ben, on s'est dit que Retour à l'Envoyeur, c'était une super idée. De faire ce concert-là avec eux ici. Et okay. Les Rocos ont mis pas mal de choses en place pour qu'on puisse le faire. Et voilà, nous voilà tous les cinq.
Bah, vous nous avez déjà habitués aux petites surprises pour les concerts des Rocos. Ici, je me souviens de la chorale de Gara La Roche, des enfants de Toré.
Ouais,
c'est ça qui était venu sur scène.
Et bah ouais.
Thomas, t'en gardes quel souvenir?
C'était marrant. On avait travaillé avec des enfants.
Ouais.
Et bah, les enfants, on s'est tous commencés. Mais ça s'était bien passé. Ça semble être un peu en demi-teinte comme ça, mais c'était super.
Vous savez combien de fois vous avez participé au Rocco?
Eh bien, on disait 3, mais ça se trouve, c'est 4. J'arrive pas à savoir.
Alors, moi, j'ai compté 7. 7 ce soir.
Oh.
Ouais. Y compris le ciné-concert. La dernière fois, c'était le ciné-concert en 2018, je crois.
Tu t'es trompé.
Bah, je sais pas, j'ai pris les archives, j'ai trouvé ça, quoi. Depuis 2008, on voit ici.
Moi, je me souviens de 4 et il y en a 3. Peut-être j'ai pas voulu m'en rappeler.
Alors, peut-être que j'ai compté les fois en dehors des Rocos aussi, c'est possible aussi.
Ah oui, d'accord, à Vendôme aussi.
Ouais, mais okay. Je suis pas sûr.
D'accord.
C'était uniquement des participations.
7, ça me paraît beaucoup.
Donc le dernier album, on en parlait tout à l'heure, c'est Pick the Week, qui est paru en début d'année chez Figure Libre Records. Pourquoi tout ce temps et pourquoi avoir changé de label du coup?
Tout ce temps parce que
c'est un ciné-concert pendant 4 ans,
ouais.
Sans faire de concert à côté. Et après, il y a eu les confinements et on a retravaillé sur un disque. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Mais...
Ouais, en fait... C'est parce que je réfléchis sur pourquoi on a mis autant de temps, mais parce que on a drôlement travaillé sur ce disque. Et je crois que ça a pris 6 ans, c'était bien.
Le dernier ciné-concert était en 2021, je crois.
Ah d'accord.
Ouais.
Ok. Ouais, vous avez tourné longtemps avec Comicolor.
Ouais, au moins 4 ans. Ouais.
D'accord.
Et pourquoi on a changé de label, c'est Richard qui nous a proposé de sortir ce disque-là. Avec Figure Libre Records, et c'était, je crois que humainement, musicalement, ça nous semblait cohérent,
ouais,
de travailler avec eux, et ça s'est fait comme ça.
Déjà, après l'album qui a précédé, il y a eu ce petit 45 tours au Toré Single Club, c'est peut-être ça qui a fait que...
Peut-être, je me souviens pas en vrai, je me souviens pas, mais je crois que le... On a eu beaucoup beaucoup de liberté sur comment on voulait faire l'album, le sortir, et ça je crois que ça nous a plu. Okay. Et politiquement aussi, je crois qu'on est d'accord avec Figure Libre.
D'accord. Okay. Là, vous tournez depuis, moi je vous ai vu au printemps, au mois d'avril je crois, au Temps Machine à Tours. Il y a eu quelques dates depuis, pas tant que ça finalement.
Si.
Ben,
je sais pas, peut-être au moins 30.
Ah ouais? Ah, j'ai loupé des trucs.
Ouais. La tournée a commencé en février. Okay. Début février, jusque fin mai, on a fait pas mal de dates quand même.
D'accord. Ouais. Et donc, vous avez amené deux musiciens qui ont participé à l'album, peut-être leur passer un micro, savoir comment ils se sont retrouvés dans cette histoire de ce nouvel album de Gablé.
Eh bien, on s'est retrouvés invités.
Ouais.
Voilà, gentiment invité par les Gablés. Ça fait, tu disais tout à l'heure que tu appréciais Gablés à travers les disques, notamment depuis une vingtaine d'années. C'est notre cas aussi. Je crois que je peux parler au nom de Séverine aussi en disant ça. Donc voilà, humainement et artistiquement, on partageait pas mal de choses et ils nous ont invités gentiment. Et c'était une chouette expérience. Mathieu disait qu'il avait drôlement travaillé sur ce disque-là. Ça me plaît bien cette phrase parce que, dans tous les sens du terme, j'ai un souvenir de. La première session d'enregistrement qui était assez marrante et assez déroutante pour Séverine et moi, on vient plutôt du milieu du classique.
Ouais.
Et ce qui n'empêche pas de faire autre chose, avec grand plaisir. Mais j'ai souvenir de la première séance où Mathieu a laissé le micro ouvert, il est sorti, fumait des clopes, on préludait, on jouait, on improvisait. Et puis il est rentré, il a dit « bon, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut ».
Ça y est, vous pouvez partir.
Et puis après, voilà, ça s'est affiné, on s'est revus plusieurs fois, on a travaillé différemment, mais c'était rigolo, ouais. C'est chouette comme expérience.
Ok, c'est un album qui a été enregistré il y a combien de temps?
Pendant un an. Je crois qu'on a mis un an à peu près à l'enregistrer, et du coup il est sorti en février, je sais pas, c'était il y a 2 ans. Ouais, l'année dernière, je pense, ouais.
Ok. Et ça a été aussi enregistré chez Lionel ?
Bah, en fait, on enregistre... on met beaucoup de temps, en vrai, à travailler.
Ouais.
Il y a eu au moins 3-4 versions de chaque morceau. On enregistre chez nous, pardon.
Ah, c'était chez vous.
Okay. On enregistre toujours chez nous. Et du coup, bah, on y retouche, on met de côté, on revient... On change, on colle, on décolle, et au bout d'un moment, on s'arrête en se disant là, c'est bien.
D'accord. Vous bricolez aussi les images, parce que moi, j'adore aussi les petits teasers que vous faites, les petites vidéos que vous mettez en ligne sur les réseaux pour annoncer les concerts, notamment celui de Vendôme, dans l'esprit Monty Python. Qui s'occupe de bidouiller ça parmi vous trois?
C'est moi qui ai fait ça.
C'est toi?
Ouais, ah, c'est bravo. Moi qui ai fait ça. Écoute, c'est hyper rigolo à faire.
Ouais.
Trouver des... Ouais, c'est un peu ludique, un peu con, un peu drôle. Et puis, on essaie de trouver des moyens rigolos de faire de la promo, parce que sinon, la promo... Hein.
Non, mais c'est bien, c'est tout fait maison, du coup.
Oui, c'est ça.
Du disque à la promo. Très bien. Bah, super content de vous avoir eu. On va vous libérer. Bon concert ce soir.
C'est gentil.
On va se quitter avec We Look Away, je crois, extrait du dernier album. Merci à tous les 5, du coup.
Eh ben, merci beaucoup.
Ce soir.
Merci.
Salut.
À l'antenne de Radio Rocco sur toutes les radios de notre réseau. Vous venez d'écouter un morceau de Gablé qui s'appelle Look Away. Et nous en rejoint sur le plateau, Sodome et Sagesse. Bonjour Sodome, bonjour.
Salut.
Sagesse. Et rebonjour Noah qui va mener l'interview.
Ah oui, c'est bon, ça marche. Merci d'être là du coup. Je vais commencer avec une première question. C'est quoi le choix de... Pourquoi ce choix d'avoir d'utiliser des sons plutôt mécaniques et inconfortables dans votre musique ?
Et au début, ça partait, on voulait faire un projet techno, parce que moi, je suis très branché techno à la base, et Philemon a voulu me suivre, et puis ça ne l'a pas tant botté. Et on avait quand même un peu envie, par rapport à nos autres projets, d'une musique de fête, et d'une musique où les gens ils peuvent se déchaîner un peu librement, et nous, on peut se déchaîner un peu librement sur le son. Voilà.
Alors vous avez un setup un peu particulier, vous êtes deux sur scène, il y en a qui vous comparent un peu à Pneu au niveau de du côté noise du son, mais vous avez plus d'instruments, vous avez notamment des boîtes à rythme je crois, et aussi un micro fait avec un téléphone et branché sur une pédale de voix. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement un peu le principe ?
Et justement par rapport à ce que je disais avant, comme c'était un projet techno, moi j'étais pas mal synthé, boîte à rythme, etc. Sauf que ça marchait pas trop de le faire en séquence. Du coup, j'ai trigué ma batterie avec tous ces synthés-là. Et j'ai mis des pédales derrière. Et Philemon a fait un peu la même chose avec sa guitare, plein d'effets, des effets qui partent dans d'autres effets. Et même sa voix est complètement transformée.
Ouais, carrément. Enfin, le projet, il est un peu basé sur des bidouillages des enceintes qu'on trouvait sur le tas. Là, c'était un téléphone, ça. Maintenant, du coup, c'est plus forcément d'actualité. Mais on se déroule un peu avec tout ça, des instruments qu'on trouve aussi, je pense, sur la route. Quoi.
On aime bien les choses un peu rigolotes. Il y a deux enceintes qui font mégaphone pour les cirques un peu. C'est un peu on aime bien les objets un peu farfelus. Quoi.
Comment vous concevez vos morceaux avec ce côté justement rythmique et violent à la fois ? Est-ce que, par exemple, en live, c'est vachement différent sur le public ? Est-ce que ça porte différemment ?
Des fois ça part souvent de bœuf ou de rythme, enfin de riff qui ramène Philemon. Souvent je dirais que c'est au début, quand on commence la répète, on tente un morceau, et souvent on arrive à sortir un truc qu'on aime bien tous les deux, et voilà.
Vous laissez place à l'improvisation un petit peu ou pas forcément?
Tu veux dire pendant le live ou pendant les répètes?
Les deux, allez.
Pendant les répètes, pas mal. Pendant le live, on a, on va dire, des créneaux où on sait qu'on peut faire durer plus ou moins les parties. Mais beaucoup moins... Moi, je viens pas du tout du hardcore ou du punk à la base. Du coup, je peux pas tenir plus longtemps que 40 minutes. Du coup, c'est pas mal écrit, le set.
Et un nom que... Enfin, beaucoup de gens se posent la question, le nom Sodome et Sagesse, est-ce que ça vient d'une blague ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus approfondi ?
Alors complètement, ouais. En fait, de base, c'est bien une blague avec les copains. Et donc ce projet-là, c'était vraiment au début pour jouer justement dans les fêtes avec les copains. Quoi.
Jouer très très tard et
très très fort.
Voilà, exactement. Et en gros, par rapport à ce qu'on peut penser, Sodome, c'est la ville de la perversion et tout ça. Et du coup, c'était un petit peu ce qu'on voulait faire... retranscrire dans notre son, où c'est pas des sons lisses et pas des morceaux forcément passables à la radio, tout ça. Mais du coup, c'est plus le perversion sonore et liberté d'expression tout en faisant attention à l'autre. C'était plus ça. Du coup, le sagesse après, quoi.
La folie bienveillante.
Ouais.
Ouais, des fois, du coup, maintenant, il est mal interprété par quelques personnes qu'on comprend complètement. Du coup, des fois, on se dit, ouais, juste faut justifier, quoi.
Faut pas du tout y voir un côté sexuel dans la chose. C'est vraiment, enfin, tout ce qu'on veut pas faire ressortir. Par exemple, il y a des gens qui nous disent, oh, voilà les deux enculés. Ça, c'est typiquement le truc qu'on déteste, quoi.
Toi, tu parlais de techno ou de fête. Est-ce que justement le morceau comme Berzingue, qui est vraiment un peu brut, est-ce qu'il vise à mettre le public dans une certaine énergie ou carrément de phase, je sais pas.
Ouais, je pense qu'on peut parler pour tous les deux. Pour tous les deux, il y a énormément de groupes qui nous ont inspirés dans la... vous avez parlé de Pneus, mais il y a ce truc qui trace tout droit et qui est très défouloir pour tout le monde, où tu te poses moins de questions en écoutant le morceau, tu danses et puis voilà, quoi.
Mmh. Ouais, c'est vrai que non, du coup pour nous c'est assez drôle de faire ce projet-là, parce que jusqu'à il y a 2 ans on n'avait jamais joué de zik comme ça. Nous de base on est plus dans des groupes de folk et folk rock. Du coup c'est un bon exercice d'essayer de faire cette zik, et ça nous a carrément plu de le faire, quoi.
Donc, est-ce que vous définirez votre style dans un style extrême ? ou pas forcément?
Si, peut-être qu'on peut. Bah, après, on l'a jamais. Enfin, il y a toujours plus extrême. Les Japonais, c'est les plus extrêmes de tous dans ce genre. Mais ouais, je pense qu'on fait de la musique extrême pour extrêmement bien faire la fête avec tout le monde.
Et par rapport à l'industrie justement musicale et aux normes culturelles, vous arrivez à garder une place dans ces événements-là, par exemple?
Et on vise pas du tout les gros festoches, genre Terre du Son ou ce genre de choses. Enfin, c'est dans tous les cas, et par rapport au style de musique qu'on fait, et par rapport à nos valeurs, ce sera plus des endroits politiquement engagés. On va dire qu'on va pas s'inscrire dans la scène musicale française, la grosse scène, quoi, mais on aimerait plus s'inscrire dans le côté plus noise ou plus de niche, quoi.
Vous percevez ça plutôt comme un espèce de libération à ce moment-là ou pas forcément?
Oui, complètement. Ouais, c'est vraiment physiquement c'est quand même quelque chose parce que pendant ces 40 minutes il fait très chaud. Pour Jean-Loup, à la batterie, c'est vraiment du sport. Du coup, y a tout ce côté-là. On est en sphère au bout de 30 secondes. Je pense que c'est carrément ce qui nous met en transe. Donc, ouais, c'est plutôt extrême aussi pour nous à ce moment-là, quoi.
Est-ce que la chaleur, ça vient pas un peu de vos costumes de scène qui sont sans trop en dévoiler, un peu médiévaux quand même?
Si, ça venait pas mal de ça, carrément. Mais. On a fait une tournée il n'y a pas longtemps sans les costumes et c'était une catastrophe. C'était dans des bars et vers les derniers morceaux, il faisait tellement chaud que j'avais envie de vomir. Enfin, c'était plus trop faisable, quoi.
Alors, vous n'avez pas les gros festivals, mais vous avez quand même un public assez grandissant, j'ai l'impression, notamment lors de votre passage au quart de tour. On peut dire retourner le petit chapiteau.
Ah ouais, c'était une super expérience, franchement, ce concert-là. Enfin, on avait même tous nos copains, c'était très heureux de ce concert, c'est cool.
Après, on jouait à la maison, du coup, c'était un peu, je pense pas qu'il y aura ce genre de... Enfin, j'espère que ça pourrait marcher, mais ce genre de réaction sur toutes les villes françaises, quoi.
Toutes les villes françaises n'ont pas le meilleur, ce festival.
C'est clair.
Carrément.
Merci Sodom, merci Sages d'être passé à notre antenne. On vous retrouve ce soir, on ne vous dit pas l'heure, donc restez jusqu'au bout. Et bon set,
merci
à bientôt.
Beaucoup.
Merci.
Salut.
Bonne journée à vous.
Et maintenant, une petite pause musicale. et il est 17h47. J'espère que vous êtes bien sortis de votre sieste avec ce morceau de Sodome et Sagesse, sobrement intitulé Berzing. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Rocco pour ce samedi de clôture des Rocomotives 2024. Tandis que Roland Cristal nous a rejoint sur le plateau. Merci à toi et à toi Leslie pour l'interview.
Eh bien, bonjour Roland Cristal déjà.
Bonjour, bonjour.
Donc Roland Cristal, si on devait vous présenter aux spectateurs ou aux auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes un peu un mélange de Henri Dess et un forum obscur d'internet du début des années 2000.
Oui, saupoudré de kick et de grosses techno, on peut dire ça.
Donc d'où ça vous vient en fait cette passion pour le lo-fi et les imageries un peu cursed
Peut-être je suis un bon vivant, j'aime bien rigoler déjà de base, donc j'aime bien ce qui me fait rire. Et aussi, ça me renvoie un petit peu peut-être à ma jeunesse, la naissance d'Internet, les gifs en vieille 3D, les pixels, tout ça, ça me parle, ouais.
Et du coup, j'ai vu aussi que dans vos clips, vous utilisez l'IA maintenant pour obtenir des images encore plus cursed.
On essaye.
Voilà, donc ça vous permet de... Enfin, vous voyez une évolution positive du coup dans l'utilisation de l'IA à ce niveau-là.
Ce qui me plaît dans l'informatique appliquée à l'art, c'est les libertés que va prendre l'informatique quand on ne maîtrise pas bien un outil ou quand l'outil est assez balbutiement. Quand on le maîtrise mal. Et moi l'IA je découvre et donc je l'utilise mal, et le hasard des erreurs fait que ça peut proposer des choses belles, des choses amusantes et qui vont s'ancrer dans mon esthétique, j'espère.
Du coup, c'est quoi un peu le processus créatif derrière une chanson ou un album? Parce qu'au final vos albums c'est à chaque fois poncé sur un concept. Là, on a vu l'album précédent, c'est Il nous faut plus d'océans, c'est ça?
Ah, il y en a eu entre-temps un autre sur les menhirs, sur les pierres.
Oui, justement, et le dernier, là, c'est celui sur les menhirs.
Exactement.
Et donc, du coup, est-ce que vous diriez que c'est un album qui est plus dur, plus rugueux, un peu plus lourd
Peut-être pas, je sais pas. C'est en tout cas la plupart des morceaux parlent de pierre, en effet.
Effectivement, ouais. Oui. Et du coup, c'est quoi le processus créatif en fait à chaque fois que vous écrivez?
Je suis sous ma douche, j'ai des idées et je sors de ma douche, je me sèche et j'écris les idées de paroles ou de mélodies. Et puis je les mets sur mon PC et je les réécoute une semaine après. Souvent, je les jette à la poubelle. Et puis, des fois, je les jette pas et je les fais vivre. Et voilà, ça fait un morceau.
Ok, d'accord. J'ai vu que vous travaillez avec des enfants. Vous êtes, votre métier, c'est professeur, c'est ça?
Oui, professeur d'école, oui.
Et donc, du coup, est-ce que les enfants à qui vous enseignez sont déjà tombés sur vos morceaux? C'est déjà arrivé?
Bien sûr, oui. Alors, par le passé, j'enseignais plutôt à des grands, des CE2, CM1, CM2. Donc là, ils sont à un âge où, oui, ils vont sur YouTube. Ils ont des grands frères, des grandes sœurs qui sont ados, qui sont peut-être plus susceptibles d'écouter ma musique aussi. Et donc, voilà, la plupart connaissaient ma musique, oui. Cette année, là, je travaille avec des maternelles. Donc, en maternelle, ils sont moins dans la techno. Donc, y en a qui connaissent, mais... un peu moins, ouais.
Mais du coup, est-ce que vous diriez que ça vous limite un petit peu au niveau créatif si jamais vous vous dites pas si jamais les gamins tombent dessus
Oui, je me pose la question de pas tenir des propos qui pourraient poser soucis, mais bon, en même temps, c'est pas plus mal aussi, c'est de pas parler de violence, de pas être vulgaire, c'est bien aussi, je trouve.
Ouais, alors après, vous êtes plus dans l'absurde.
Oui.
D'ailleurs, c'est qui vos modèles au niveau de l'humour pour l'absurde comme ça
Je sais pas si vous connaissez les Américains Tim Heidecker, Tim and Eric, Eric Wareheim, Tim Heidecker. C'est deux gars qui avaient. Enfin, si vous regardez les vidéos de Tim and Eric. C'est quasiment des clips de Roland Cristal. C'est vraiment des humoristes extrêmement drôles qui basent leur humour sur une vieille esthétique des années 90, sur l'absurde. Voilà, vraiment l'esthétique visuelle, je la pioche largement chez eux. Pas que, mais c'est mes modèles en tout cas, oui.
Ok, d'accord.
Et donc, au niveau de votre rapport avec le public, est-ce que, qu'est-ce que vous attendez en fait quand vous jouez face à un public par rapport à quand vous écrivez vos morceaux? Est-ce que vous savez déjà à l'avance qui va faire effet, ou est-ce que vous attendez telle ou telle réaction?
Je sais à peu près l'effet que j'ai envie de provoquer, qui est quasiment toujours le même. J'ai envie que les gens y dansent, j'ai envie que les gens y rigolent, j'ai envie qu'il y ait de l'interactivité. Voilà, des fois ça marche pas évidemment, mais en ce moment j'ai la chance que ça marche souvent, et c'est ça que j'attends du public, ouais, de la réponse, du sourire et de la danse.
Donc vous avez fait un album sur l'eau, un album sur la pierre. Est-ce que vous allez faire un album sur le feu et l'air?
On verra après. Des fois les thèmes ils s'imposent à moi. Le thème des pierres par exemple, j'avais écrit une dizaine de chansons et je me suis rendu compte que toutes ces chansons parlaient plus ou moins de pierres, et là je me suis dit bon ben en fait c'est un album sur les pierres. Le prochain album, je sais pas, y a une chanson qui parle des serpents et des sangliers, donc c'est pas évident que ça rentre dans les éléments que tu viens de citer, mais en tout cas on verra.
Peut-être un album sur les animaux de la forêt du coup,
qui sait.
Sur les ornithorynques.
Peut-être. C'est restreint comme thème, ça, mais
c'est de niche.
Et vous avez jamais eu envie de faire de donner dans autre chose que l'humour?
Si. Bah après, Roland Cristal, c'est une facette de ma personne. Je pense tous les artistes, aucun artiste ne peut prétendre d'être totalement lui-même sur scène. C'est une partie de moi, une partie des choses que j'ai envie d'exprimer. C'est ma partie festive, ma partie joviale. Après, j'ai déjà eu des groupes de rock, de jazz, où on était sur d'autres propos. Et peut-être qu'un jour, Roland Cristal, j'arrêterai et j'aurai envie de faire autre chose. En tout cas, Roland Cristal, pour moi, j'essaye de rester un petit peu de poser ces contraintes-là. La contrainte de la fête, du sourire. Voilà.
Et c'est quoi votre formation musicale, pour le coup, vu que vous aviez joué dans plusieurs autres groupes avant
J'ai fait l'école de musique, le conservatoire quand j'étais petit. J'ai fait une formation plutôt classique, puis par la suite plus axée sur le jazz. J'étais dans une école à Toulouse qui s'appelle Musicale. C'est une école orientée jazz et musique actuelle. Et voilà, j'ai fait de la guitare pendant une quinzaine d'années en mode jazz plutôt, ouais, jazz rock. Et j'ai joué dans des groupes de rock beaucoup, ouais. Et puis un jour, je me suis mis à faire de la techno. Et voilà, nous voilà ici.
Vous avez commencé avec Roland Cristal en 2020, c'est ça? Et
un peu plus tôt, oui, mais ça a commencé à bien marcher, ouais, en 2020.
Est-ce que vous direz que le confinement vous a un petit peu aidé à vous focaliser sur ce terrain-là, ou alors si justement ça a un petit peu changé la trajectoire de Roland Cristal à ce moment-là?
Je pense que ça a plus nuit que nourri ce projet. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais plein de dates qui ont sauté, quoi, et peut-être que j'aurais peut-être pu un peu plus fonctionner plus tôt, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est le destin.
Eh bien, non. Merci en tout cas d'être venu, Laurent Cristal, et à de vous retrouver ce soir en direct du Minotaur. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Rocco, sur les différentes radios qu'on ne présente plus. Merci encore d'être venu. Et maintenant, une petite pause musicale avant de continuer les interviews jusqu'à 19h.
1, 2, 3 menhirs, je fais la collection des menhirs. Et 1, 2, 3 menhirs, j'en fais la collection. 1, 2, 3 menhirs, je fais la collection des menhirs. Et 1, 2, 3 menhirs, j'en fais la collection. Tu ne devrais pas mettre tous ces menhirs dans le coffre de la voiture. Tu vas la démolir. Tu ne devrais pas prendre toutes ces pierres. Tu vas péter la suspension arrière. Tu ne devrais pas mettre tous ces menhirs dans le coffre de la voiture. Tu vas la démolir. Tu ne devrais pas prendre toutes ces pierres. Tu vas péter la suspension arrière. 1, 2, 3 dolmens. Je fais la collection des dolmens. 1, 2, 3 dolmens. J'en fais la collection. 1, 2, 3 dolmens. Je fais la collection des dolmens. 1, 2, 3 dolmens. Dans la voiture, je les emmène. Tu ne devrais pas ramasser ces dolmens, tu ferais mieux de les mettre à la benne. Tu ne devrais pas prendre ces constructions, tu vas salir les sièges du fourgon. Tu ne devrais pas ramasser ces dolmens, tu ferais mieux de les mettre à la benne. Tu ne devrais pas prendre ces constructions, tu vas salir les sièges du fourgon. La collection des menhirs et 1, 2, 3 menhirs, j'en fais la collection. 1, 2, 3 menhirs, je fais la collection des menhirs et 1, 2, 3 menhirs, j'en fais la collection. Tu ne devrais pas mettre tous ces menhirs dans le coffre de la voiture, tu vas la démolir. Tu ne devrais pas prendre toutes ces pierres, tu vas péter la suspension arrière. Tu ne devrais pas mettre tous ces menhirs dans le coffre de la voiture, tu vas la démolir. Tu ne devrais pas prendre toutes ces pierres, tu vas péter la suspension arrière.
Radio Rocco, c'est sur Studio Zef à Blois et Vendôme.
Radio Campus à Orléans.
Radio Béton à Tours.
Radio Résonance à Bourges.
Radio Active à Amboise et Mont-Louis-sur-Loire.
Radio Dynamo au Blanc et à Argentan-sur-Creuse.
Radio Balistique à Châteauroux.
Et Bob FM à Limoges.
Et comme vous l'avez entendu, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Rocco. À l'instant, on s'est entendu un morceau de Roland Cristal. Je fais la collection des cailloux. Des petits cailloux. La précision est importante, tandis que nous a rejoint Nick Weldon sur le plateau. Et c'est à toi, Clémentine, pour l'interview.
Bonjour, Nick Weldon. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint sur le plateau de Radio Rocco. Et vous êtes accompagné. Est-ce que vous pouvez nous présenter la personne qui est.
Bertrand Perrault, qui fait le son pour notre groupe de Living Paintings et qui est une très bonne amie depuis deux années.
Bonjour, merci.
Bonjour Vincent. Nick, vous venez de jouer à la Chapelle Saint-Jacques. C'était une première pour vous.